Bonjour, bienvenue sur UX Content Craft. Je suis Apolline, UX Writer Freelance et cofondatrice de Lorem. Lorem, c'est une école de formation à l'UX Writing et aussi un studio pour accompagner les équipes design et produit dans la conception des contenus de leur interface. Sur UX Content Craft, je pars à la rencontre d'UX Writer, de Content Designer, de Product Designer, de Product Manager et bien d'autres encore. Pour, devinez quoi ? Parler du UX Writing. Ensemble, on discute de leur parcours, de leur quotidien, de projets challengeants et de la structuration de l'expertise contenue dans leur équipe. Avant de commencer la discussion du jour, je vous invite à noter le podcast, avec une super note bien sûr, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, place à l'épisode. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'ai le plaisir d'échanger une seconde fois avec Sophie Yaniro. J'avais rencontré Sophie en novembre 2020. Elle était la première UX Writer à intervenir sur le podcast pour expliquer le métier d'UX Writer. Depuis, elle a fait un bon bout de chemin. Après une expérience chez Doctolib, elle a rejoint Blablacar en août 2021 en tant que content designer. En octobre 2022, elle a eu l'opportunité de créer une équipe sur mesure en tant que Content Design Lead. Pourquoi sur mesure ? Eh bien, Sophie a construit une équipe qui peut sembler atypique, mais qui fait finalement complètement sens. Atypique parce que c'est une organisation qui est peu ou pas du tout rencontrée dans la tech, et qui fait complètement sens parce qu'elle regroupe les expertises liées au contenu produit, le Content Design et la localisation. Quand elle a pris son poste de Content Design Lead, l'équipe de Sophie se constituait de deux Content Designers. Donc, complètement logique. Et alors que les deux localisations de managers étaient dans l'équipe tech, elle les a rapatriés dans sa propre équipe. Aujourd'hui, l'équipe Content, c'est donc deux Content Designers et deux localisation managers. Dans cette conversation, on revient sur le pourquoi et le comment de la création de cette équipe. Sophie nous éclaire ensuite sur le job de localisation manager, encore peu répandu dans les entreprises. Elle nous éclaire aussi sur son propre job de lead, à la tête d'une équipe aux deux expertises proches par leur dimension contenu et en même temps éloignée. Une équipe dans laquelle elle essaye de jongler entre un métier qu'elle a exercé pendant des années, le content design, et un métier qu'elle a côtoyé, la localisation. Sophie nous partage enfin les impacts de cette restructuration au sein de son équipe, auprès des autres équipes, design et produits notamment, et au service de la conception de l'expérience dite end-to-end chez Blablacar. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, et je laisse place à ma conversation avec Sophie Yaniro. Bonne écoute! Bonjour Sophie!
Salut!
Je suis ravie de t'accueillir une seconde fois sur le podcast UX Content Craft. Et la dernière fois, c'était en novembre 2020. Et c'était, je crois, la première fois que j'ai accueilli une personne qui introduisait le sujet de l'UX Writing. Je me souviens, c'est l'épisode, je crois, c'est, je l'avais noté, « Que fait un UX Writer, une UX Writer ?» Et aujourd'hui, enfin, tu as fait du chemin depuis fin 2020, ça fait 3 ans et demi, si j'arrive bien à compter. Depuis le temps, tu as fait quoi comme, comme bout de chemin dans l'UX Writing notamment ?
Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour parler un petit peu de l'UX Writing, et je crois que moi aussi c'était une des premières fois où j'en parlais ouvertement et en tant que UX Writer, donc on va dire que presque la boucle est bouclée au bout d'un moment. Mais du coup, en novembre 2020, j'étais chez Doctolib, et donc j'avais rejoint Doctolib en janvier 2020 en tant que première et unique UX Writer, et donc je crois qu'en novembre 2020, si je dis pas de bêtises, j'étais en train de recruter la première personne de mon équipe. Donc j'étais en pleine construction de l'équipe chez Doctolib, et d'ailleurs eux de leur côté aussi ils ont fait pas mal de chemin parce qu'ils ont bien grossi chez Doctolib. Je crois qu'ils sont 5 ou 6 en tout UX Writer. C'est une des plus grosses équipes en France, je crois, si ce n'est la plus, non c'est pas la plus grande, mais c'est une des plus grosses. Donc non, c'est plutôt cool et c'est trop bien de voir aussi que ben l'équipe elle a continué de grandir et que l'UX Writing a gardé une place un peu importante au sein de Doctolib. Moi de mon côté, j'ai changé d'entreprise, j'ai rejoint BlaBlaCar donc en août 2021 en tant que content designer, donc le titre est un peu différent. Et du coup, pareil, je les ai rejoints en tant que content designer. Donc eux, ils avaient déjà une équipe et ils ont presque toujours eu des content designers. En tout cas, ça fait des années que l'expertise existe chez eux. Donc, je n'ai pas rejoint un terrain où il fallait tout construire. C'était déjà bien entamé. Il y avait déjà pas mal d'évangélisation sur le content design. Et puis, pareil, je suis venue en tant que content designer et j'ai fini par construire une équipe. Aujourd'hui, donc, on est quatre.
Ok, ça marche. Et du coup, pour poser un peu le contexte, c'est quoi le périmètre de l'expérience BlaBlaCar?
C'est une bonne question. En fait, l'expérience chez BlaBlaCar, on a une approche qui est un petit peu différente par rapport à ce que j'ai connu ou en tout cas ce que j'ai entendu sur le marché. C'est, on parle de end-to-end. Donc en fait, très rapidement, on m'a dit l'expérience, c'est pas uniquement le produit. Parce qu'en fait, la vision aussi de l'expérience chez BlaBlaCar, c'est que l'utilisateur, il vient sur BlaBlaCar pour réserver un covoiturage ou un bus. Mais en fait, la finalité de son expérience, c'est de voyager, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc du coup, l'expérience, faut aussi la visualiser dans un contexte un peu plus réaliste et de se dire que, ben, en fait, c'est pas juste notre produit, c'est vraiment ben, au moment où tu attends ton covoiturage, tu es sur, je sais pas, une aire d'attente de covoiturage, tu retournes sur l'application, tu as encore des interactions avec le produit. Et t'es pas encore dans la voiture, après tu rentres dans la voiture, après t'en sors, t'as encore des interactions avec le produit. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, vaste que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Et si je reboucle avec un content designer, ce qu'on fait, nous, c'est que on va pas juste prendre en compte la fonctionnalité. Et ça, c'est très nouveau pour moi, c'est on prend aussi en compte toutes les interactions qu'on appelle transactionnelles que tu peux avoir sur un produit, c'est-à-dire les emails, les push notifications, les messages inbox. Donc c'est un peu, en fait, une fois que tu es sorti du produit, nous, on a quand même un intérêt à continuer à interagir avec l'utilisateur. Et ça s'inclut dans le scope du content designer aussi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre cet aspect end-to-end de l'expérience, parce que notre scope est, à mon sens, un petit peu plus large que ce que j'ai connu ou ce qui peut se faire sur d'autres produits où il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'interactions avec l'utilisateur.
Ok, ouais. Et du coup, comment s'organise un peu l'équipe produit et design chez BlaBlaCar?
Alors, si je prends le cheminement dans l'autre sens, où est le content design? Ça, c'est quelque chose qui m'avait vachement surpris et quand j'ai rejoint BlaBlaCar, parce qu'à la différence de Doctolib, le content design chez Doctolib est dans l'équipe design. Donc, c'est une sous-expertise du design, on va dire. Là où chez BlaBlaCar, c'est différent parce qu'on n'est pas dans l'équipe product design. On est dans une autre, on va dire, sous-équipe de l'équipe produit. Donc, ça, c'était un premier choix qui était assez pas difficile à entendre, mais ça me questionnait vachement quand j'ai rejoint BlaBlaCar en me disant ben où je vais aller en fait. J'avais un peu presque peur en me disant ben si on n'est pas sous l'équipe product design, ça change tout. Et en réalité, ça change rien. Donc si je reprends dans le bon sens, on a l'équipe produit avec tous les product managers. Ensuite, on a deux équipes dans cette équipe produit qui est product design avec tous les product designers. Et on a une équipe qui s'appelle product engagement. Donc c'est là où est le content. Et on est dans une équipe avec product marketing, CRM automated program et research. Donc on a cette équipe product engagement qui regroupe en fait plusieurs expertises qui sont aussi importantes dans les différents projets et dans l'équipe produit en général. Et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, le fait de ne pas être dans l'équipe product design fait que tu crées des synergies avec d'autres expertises que moi je connaissais pas. Par exemple, product marketing, je n'ai jamais travaillé avec des product marketeurs avant, ou en tout cas de manière assez éloignée, pas du tout tous les jours en fait. Et en fait, je me rends compte que la synergie avec le product design en tant que content designer, t'as pas besoin de la créer. Elle est naturelle et elle est assez évidente. Donc en fait, le fait de pas être dans la même équipe, ça me permet aussi de me dire, bon ben, cette collaboration-là, elle est évidente, elle est acquise. J'ai presque pas besoin de la travailler, si on peut dire ça comme ça. Par contre, il y a toutes les autres collaborations à construire, research, CRM, PMM. Et là, c'est vrai que le fait d'être sous la même équipe, avec la même manager, ça nous aide beaucoup.
Ouais. Ah ok, c'est hyper intéressant comme organisation, et c'est vrai que s'il n'y avait pas cette maturité dans le sens où la collaboration entre content et product designer n'était pas acquise, c'est vrai que ça fonctionnerait pas forcément. Ah, c'est intéressant comme
Oui.
et c'est top pour pouvoir créer justement ouais, des synergies et désiloter un peu et créer une collaboration avec Product Manager et CRM, comme tu disais. Donc aujourd'hui, toi, ton équipe, en tant que lead, elle est constituée de deux content designers et deux localisation managers, c'est ça, si je ne me trompe pas. Comment tu as créé cette équipe-là? Parce que tu es arrivé en tant que content, tu es devenu lead, donc c'est qu'il y a eu une création, on va dire, d'équipe content. Comment
Ouais,
ça
c'est
s'est passé?
ça. En fait, jusqu'à maintenant, avant qu'on crée l'équipe content, en fait, il y a toujours eu localisation et toujours eu content design, on va dire, mais dans des équipes différentes. Donc, content design, c'était une, deux ou trois personnes plutôt indépendantes, individual contributeurs. Il n'y a jamais une équipe content qui était dans l'équipe produit, et localisation, c'était deux personnes dans l'équipe tech. Pareil, c'était pas vraiment une équipe avec un manager, etc. C'était vraiment deux individuels contributeurs qui étaient dans la tech. Et pourquoi ils étaient dans la tech? C'est parce qu'en fait, ils interviennent dans le moment de la delivery du contenu. Mais ça, je pense qu'on s'en reparlera un petit peu plus de c'est quoi leur rôle. Et du coup, côté content design, ben, nous, on intervient dans la discovery, donc vraiment en amont des projets. Et en fait, on s'est rendu compte que, bon, on a un sujet commun qui est le contenu, ça paraît assez évident. Mais en fait, on avait beaucoup d'échanges au quotidien quand même sur l'importance de la cohérence de ce contenu. Parce que eux, leur matière côté localisation, c'est le contenu source que nous on produit. Donc en fait, il faut qu'il soit de bonne qualité, on va dire, pour pas dire irréprochable, parce qu'en fait, tu ne traduis pas un contenu qui n'est pas quali. Parce que sinon, tu dépenses de l'argent pour le refaire. Donc, c'est pas du tout le but. Et surtout, en fait, on a une documentation interne commune, comme le glossaire, tout ce qui est style guide, tone of voice. Donc, ça, c'est des éléments qu'on partage et qu'il faut qu'on co-construise presque ensemble. Parce qu'en fait, le contenu source que nous, on a, il va être localisé dans plus de 20 langues. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on ait un alignement entre nos expertises, sinon ça fonctionne pas. Et du coup, ça a été une évidence ça a été une évidence de fusionner ces deux équipes-là pour construire une équipe content à un moment donné, parce qu'on se rendait compte que le fait de ne pas être dans la même équipe, ça créait en fait encore une fois des silos qui n'étaient pas utiles. Et ça demandait un effort de créer des process entre nous, de s'aligner. On n'avait pas du tout les mêmes process, etc. Donc, le fait d'être sous la même équipe, ça aide quand même pas mal.
Ouais, tu ramènes vraiment la localisation à, bah, dans la conception de l'expérience. En fait, c'est vrai que souvent, ce qu'il peut y avoir, bon, il n'y a pas forcément de localisation de manager dans les équipes, mais ce qu'il peut y avoir, c'est OK, là, on a UX Writer, Content Designer qui crée l'expérience en anglais, généralement, comme dans une boîte comme Babacar. Et après, on se dit OK, une fois que l'expérience elle est faite, on passe en delivery, donc du coup dev et localisation. Et là, c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir ce côté UX en fait au niveau de la localisation, ce qui est intéressant. Ouais.
Ouais, et puis même de notre côté content designer, il nous apporte aussi une expertise qu'on n'a pas et dont on a besoin au niveau du contenu source. Par exemple, C'est écrire un anglais qui soit aussi relativement neutre, parce qu'après, il faut qu'il soit traduit dans plusieurs langues. Donc, il faut que l'anglais soit bon, il soit neutre, il ne faut pas qu'il y ait de jargon. Ça, c'est évident quand tu es content designer. Mais il y avait des questions aussi qu'on se pose sur le choix des noms, des fonctionnalités. Par exemple, est-ce qu'on les traduira? Est-ce que le nom qu'on définit avec les product marketing managers aujourd'hui, dans la phase de discovery, fait sens quand on va le localiser au Brésil, en Espagne, en Italie, en France. C'est ces sujets-là aussi qu'on aborde avec eux. Et je trouve que c'est important de les avoir autour de la table quand il y a ces sujets, parce que ben, eux, ils ont une meilleure connaissance aussi de ce qui se passe d'un point de vue local, des besoins sur la localisation et la traduction. Donc ça, c'est tous des éléments qu'on n'avait pas forcément intégrés et que où on n'a pas les réponses. Pareil, sur la, on a une obsession, on va dire, de l'homogénéité, de la cohérence des mots. Et c'est vrai que le fait d'être dans la même équipe, ça fait que, en fait, les choix que tu fais, ils se répercutent assez vite sur la traduction. Donc, en fait, les deux, trois mots que tu vas choisir et que tu vas vraiment sélectionner ou que tu vas éviter de faire, en fait, tout ça, c'est des choses qu'on documente au fur et à mesure pour éviter que, ben, en traduction, on se repose 10 fois la même question de est-ce qu'on dit ça ou ça. Donc ça va aussi beaucoup plus vite, le fait d'être très proche. Et puis on se parle toutes les semaines, on a un weekly, donc on essaie d'avoir vraiment une dynamique d'équipe où ils sont au courant de ce qu'on fait en amont et on est au courant de ce qui se fait une fois que c'est délivré. Et on continue aussi d'avoir ce côté qualité. On fait vraiment le tour de, voilà, quand une fois qu'on a délivré, on regarde est-ce que c'est OK dans toutes les langues, etc. Donc on est plutôt réactif si jamais on voit que quelque chose ne fonctionne pas, et ça, c'est assez confortable en vrai. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un content designer qui spot. Ouais, il n'y a rien de pire qu'un content designer qui spot une erreur et qui met hyper longtemps à la corriger parce qu'en fait, tu n'as pas les bons accès dans Phrase où tu dois demander à tel squad parce qu'en fait, tu sais pas où c'est tombé. Enfin, au moins, eux, ils ont vraiment une bonne connaissance de notre outil Phrase. Et on est hyper. Ouais, on a vraiment les mains dedans. Donc, en fait, on voit un truc, on est capable de le corriger. T'as les bonnes personnes dans la même équipe pour faire une correction si jamais c'est nécessaire, quoi.
Et du coup, ce qui me fait me demander, le fait que les deux personnes à la localisation se sont détachées de l'équipe tech, est-ce que, enfin, quelles ont été un peu les réactions côté tech et aussi côté localisation manager? Est-ce qu'il y a eu un impact qui soit positif ou négatif, le fait de changer d'équipe?
C'est une bonne question. En vrai, on n'a pas eu besoin de convaincre qui que ce soit que c'était une bonne idée. J'ai l'impression que ça s'est fait un peu, je vais pas dire comme une évidence non plus, mais ça a choqué personne de créer cette équipe et de changer la localisation d'équipe. Encore une fois, la synergie avec la tech, elle existe pour la log. Donc en gros, ils ont pas forcément un peu comme nous, content design avec le product design, on n'a pas besoin de continuer à entretenir cette relation, elle existe, les process existent, tout a été construit. Donc en termes d'organisation, ça n'a pas changé grand-chose, je dirais. C'est vrai que pour la localisation aujourd'hui, je pense que le fait qu'ils soient dans l'équipe produit, ça leur donne plus de visibilité sur l'intérêt du métier. C'est un métier en fait dont on parle pas souvent et on a tendance à dire qu'il n'y a pas de localisation spécialiste ou qu'il n'y en a pas beaucoup, etc. Alors que je pense que c'est surtout un métier qui n'est pas visible et dont les spécialistes ou les experts prennent pas forcément autant la parole qu'en content design. Ça, c'est peut-être vrai aussi. Mais du coup, voilà, ça leur donne plus de visibilité au sein de l'équipe produit, qui est quand même une équipe où je dis pas que tout se passe là, mais les choses partent de là en tout cas. Et de savoir que voilà, il y a l'équipe localisation et on peut sensibiliser aussi assez tôt dans le process et dans les projets les enjeux de localisation. Par exemple, de dire ben, on va pas utiliser ce composant-là parce qu'en fait en anglais c'est déjà super long, donc On a les clés, on a les éléments pour leur dire en italien, c'est encore pire, en portugais, brésilien, pas mieux. Donc on commence déjà aussi à pouvoir distiller aussi un peu d'informations et éduquer un peu sur la localisation dès en fait le produit. Et ça, je trouve que c'est plutôt là où on a gagné, enfin, un des éléments qui nous fait dire que c'était un très bon choix aussi. Et donc ça, je
Ouais.
trouve que c'est hyper important.
Ça a beaucoup plus de poids, clairement, comme ça. Et si on reste vraiment sur cette expertise, concrètement, les localisation managers font quoi?
Ouais, c'est vrai que on parle peut-être pas assez, ou en tout cas on n'a pas une bonne connaissance de leur métier. Mais en fait, si je résume ce qu'ils font, ils ont plusieurs casquettes, et les deux profils qui sont dans mon équipe n'ont pas vraiment les mêmes casquettes, et ça, je trouve c'est hyper intéressant. Donc il y a évidemment la partie localization management où tu vas récupérer le contenu source. Tu vas mettre en place des process pour pouvoir envoyer sous le bon format le contenu à différents traducteurs, le récupérer, l'implémenter dans notre outil et faire en sorte que ce soit, on va dire, shippé sans accroc, parce qu'en fait, ça, c'est un des points quand même assez clés de la localisation, c'est t'es intégré dans le process de delivery, mais il faut pas que tu le ralentisses. Donc, faut que tu suives une cadence qui existe et qui est la délivrée des projets avec les devs, etc. Mais il faut vraiment pas que ça ralentisse. Et en même temps, faut que le contenu source soit très bon pour qu'on n'ait pas à le traduire deux fois parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pété, etc. Donc ça, c'est le côté, on va dire, management de la traduction et de l'implémentation du contenu traduit, qui est un des, on va dire, une des tâches, missions clé de la localisation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la partie outils, process, comment on automatise une partie des process, comment on les fluidifie, comment on fait en sorte qu'on utilise les bons outils, qu'on intervienne au bon moment, de la bonne manière, etc. Donc ça c'est une partie hyper importante. J'ai envie de dire que chez BlaBlaCar, comme c'est une expertise qui existe depuis un petit moment, c'est assez rodé. Mais voilà, enfin, à un moment donné, il faut aussi toujours remettre en question et pas rester sur des acquis. Donc il y a ça. Après, évidemment, il y a aussi toute la partie cohérence et homogénéité du contenu. Donc c'est de la documentation en interne. Comment tu t'assures que les traducteurs ils aient les bonnes infos, qui soient aussi un peu familier et éduqué sur le côté, en fait, tone of voice de BlaBlaCar, je vois très bien ce que c'est, je connais très bien les mots que je dois utiliser, ceux que je dois pas utiliser. Donc ça, c'est aussi toute une éducation qu'il faut faire avec les traducteurs, leur fournir les bons documents, etc. Qu'est-ce qui pourrait rentrer encore en compte? Après, il y a aussi toute la partie outils, j'en ai parlé, documentation, j'en ai parlé, localization management, j'en ai parlé. En fait, il y a aussi toute la partie communication en interne qu'on fait, on va dire, un peu en binôme avec communication, content design et localisation. Un peu aussi éduquer toutes les personnes en interne sur l'enjeu du contenu, quel est l'impact du contenu produit, si c'est mal fait, si c'est, on va dire, quel est l'impact côté localisation aussi, si jamais on a des process qui sont pas assez rodés, etc. Donc on essaie aussi de donner un peu de visibilité à ce qu'on fait. Et ça, on le fait tous ensemble. Parce que l'intérêt aussi de l'équipe content design qu'on a, c'est qu'en fait, on a une responsabilité de A à Z du contenu. Donc du moment où on l'écrit, on le crée, jusqu'au moment où il est, on va dire, entre les mains de l'utilisateur. Donc on a une équipe qui a vraiment une gestion et un impact assez fort sur le contenu produit. Et du coup, on essaie aussi de donner un peu de visibilité à tout ça en interne. Donc ça, c'est très récent et ça fait partie un peu de ce qu'on essaie de construire en tant qu'équipe entre content et localization. Mais voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des... Ouais, je pense que c'est plutôt clair.
Ouais, bah c'est clair, je te confirme sur leur rôle. Et du coup, maintenant, si on s'intéresse plutôt aux content designers, c'est quoi leur rôle? Parce qu'au final, ils sont que deux.
Donc, ils peuvent pas être partout. Donc, comment ça s'articule leur expertise?
Ouais, côté content design, effectivement, on n'est jamais aussi nombreux que côté product design, qui ne sont jamais aussi nombreux que côté product management, c'est une réalité. Après, je suis pas convaincue qu'on ait non plus besoin d'un content designer derrière chaque projet, parce que en fait, la réalité, c'est qu'il y a des projets qui ont un enjeu plus important ou un impact différent. Que ce soit en tant qu'entreprise ou pour l'utilisateur. Donc, il y a une priorisation des projets qui est à faire et qui sera toujours la réalité des content designers, c'est que on ne peut pas mettre tous les projets au même niveau et on ne peut pas avoir la même implication dans tous les projets. Donc ça, il faut en être conscient et il faut l'accepter en tant que content designer. On ne peut pas être partout et on n'a pas vocation à être partout. Et moi, en tant que manager, j'ai pas envie de mettre des content designers partout. Mais en tout cas sur les projets qui sont clés et qui sont importants pour l'entreprise, c'est vraiment un content designer, c'est un membre du working group, c'est un peu ce qu'on dit, donc c'est du jargon interne, mais en gros un working group chez nous c'est PM, product designer, content designer, parfois PMM. C'est vrai que souvent quand il y a un content designer, il y a un PMM avec lui. Donc nous en fait un working group c'est plutôt 3 ou 4 personnes et il y a toujours le content designer si c'est nécessaire et du coup on intervient dès le début du projet donc dès le début c'est-à-dire quand on va définir c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre, définir les success metrics, définir ce qu'on appelle le claim, donc c'est vraiment un peu les premiers éléments du narratif de cette fonctionnalité. Après, t'es évidemment impliqué dans la phase d'exécution où tu vas faire le contenu. En fait, j'avais tendance à dire, je t'ai dit dans ton premier podcast, mais pour moi, un content designer, c'est 80% de réflexion et de stratégie et c'est 20% d'exécution. Et ben, en fait, chez BlaBlaCar, c'est 80%, on les passe avec le designer, le PMM et le PM. Et les 20%, c'est un peu le moment où on va faire plutôt en binôme avec le designer parce que on est dans Figma. Donc, c'est un peu ça le rôle d'un content designer. Après, il y a aussi toute la partie, encore une fois, documentation, créer le content system, etc. Mais sur vraiment la partie projet, c'est comme ça que travaille un content designer chez BlaBlaCar. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la localisation, c'est aussi, en fait, évangéliser et un peu éduquer les équipes qui n'ont pas de content designer et qui n'en ont pas forcément besoin dans l'immédiat à quand même être capable de créer un bon contenu. Parce qu'en fait, le contenu, on le verra de toute façon parce qu'il arrivera à la localisation. Eux le verront à un moment donné. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir déléguer une partie de la rédaction de ce contenu à d'autres personnes parce qu'en fait, on a une documentation qui est tellement bien faites dans l'idéal qu'ils ont les mêmes éléments que nous et en tout cas ils sont au courant de ce que des guidelines que nous on a en tête, des contraintes qu'on a en tête pour écrire du contenu. Et ils sont capables de faire une première version qui est très quali et qui nécessite pas une repasse de notre part ou de l'équipe localisation. Donc ça fait partie aussi de notre rôle d'éduquer, d'accompagner, d'apporter du support et des ressources aux autres équipes. Pour moi, c'est un peu la seule manière de scaler le content design en interne sans avoir besoin de toujours rajouter plus et plus et plus de personnes. Je pense que déjà construire des bonnes fondations et des bonnes ressources, ça fait partie des éléments importants pour scaler la pratique en interne.
Donc on sait job du content designer et le job des personnes qui sont localisation manager, pardon. Donc comment s'articule la collaboration entre les deux? Qu'est-ce qu'ils font ensemble?
Eh ben ouais, alors ça c'est une très bonne question. C'était la première question que je me suis posée quand j'ai pris le rôle de manager parce que sur le papier, comme je te disais au début, on travaille sur le contenu. Donc ça paraît évident qu'on soit autour de la même table et qu'on travaille ensemble. La réalité, c'est qu'en fait, on n'intervient pas du tout au même moment du process et on n'a pas du tout la même responsabilité du contenu. T'as le content design qui est en charge de créer le contenu source. Et la localisation, ils n'écrivent pas de contenu en fait. ils sont pas, c'est pas des rédacteurs de contenu, si on parle vraiment de manière hyper simple. Eux, ils vont vraiment faire en sorte qu'ils récupèrent une matière, ils la transforment et ils la redonnent aux bonnes personnes au bon moment. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, mince, en fait, comment on va créer justement ces ponts et faire en sorte qu'il y ait une synergie entre nous? Et en fait, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est notre enjeu, c'est de faire en sorte que le contenu soit de très bonne qualité, quelle que soit la langue, que les process soient fluides et que l'utilisateur, en fait, il se rende presque pas compte que ça a demandé autant d'efforts d'avoir un contenu en espagnol hyper limpide pour quelqu'un de local, parce qu'en fait, on a fait tout un travail de se dire, mais c'est quoi les besoins, on a sélectionné les bons traducteurs, etc. Donc là, où on va travailler ensemble, c'est plutôt sur la partie ressources, s'aligner sur c'est quoi notre tone of voice. Donc ça, on travaille aussi avec la brand. Notre glossaire, on l'enrichit. Tous les sujets d'harmonisation, c'est un grand sujet qu'on a. C'est dès qu'on voit des petites différences, qu'on n'utilise pas les mêmes mots, les mêmes verbes, on va faire tout un travail d'harmonisation aussi. Les outils, les process, en fait, on va les penser de A à Z, et c'est là où on va aussi créer une synergie. C'est en fait le contenu, comme je disais, il part d'un point A et il va jusque côté localisation. Comment on fait en sorte que tout ça roule, et c'est là où on travaille ensemble. Donc ouais, je pense que c'est là la force aussi d'avoir les deux expertises sous la même dans la même team.
Ok. Et toi alors, tu fais quoi? C'est quoi ton job de lead là au quotidien? À part te dire, mince, je t'imaginais bien, tu sais, sur une feuille au début, hey, mais c'est bien beau de les mettre ensemble là, les locaux et content design, tu sais, je t'imaginais, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Bah en fait c'est ça, enfin c'est vrai que c'est pas une évidence, et puis un des premiers réflexes que j'ai eu, c'est aussi de me dire, mais en fait je suis sûre que cette équipe dans cette organisation, elle existe ailleurs. Pas tant que ça, en vrai. J'ai pas trouvé un autre manager qui a la même équipe que moi, ou en tout cas, j'ai pas assez cherché pour le trouver. Mais ce qui est rassurant, c'est que les enjeux de localisation, ils concernent toutes les équipes content design, parce qu'à partir du moment où tu as du contenu et que tu as un produit qui est disponible dans plusieurs langues, tu as cet enjeu de localisation qui existe et qui est présent, même si tu n'as pas de localisation spécialiste à proprement parler dans ton équipe. Donc du coup, c'est un petit peu comme ça aussi, j'essaie de comprendre comment les autres équipes et comment les autres managers essaient d'organiser tous ces sujets dans leurs équipes. Mais donc, quelles sont mes missions à moi maintenant que j'ai ces personnes-là dans mon équipe? Bah, la première mission, c'est de leader la stratégie de contenu produit. Donc en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que la localisation et le contenu vivent ensemble. Donc en fait, il y a un impact. L'équipe content design aujourd'hui, elle a un impact plus fort au sein de l'équipe produit, parce que du coup on gère ce contenu du début à la fin. Donc en fait, ça va de la discovery à la delivery. Donc en fait, la stratégie, elle est vraiment globale, et il faut aussi la penser ben, end to end en fait, pour nous aussi. Donc c'est pas uniquement maintenir la qualité du contenu sur ça, c'est vraiment se poser d'autres questions et dérouler une stratégie de contenu produit plus globale. Donc ça, c'est le rôle de lead sur la stratégie, je dirais. Et après, d'un point de vue management des équipes, ben, c'est important parce que il faut que je m'assure que les rôles soient clairs pour chacun, que ce soit côté content ou côté loc, qu'ils aient toutes les ressources dont ils ont besoin, les aider aussi à grandir mutuellement dans leur carrière, enfin voilà, le rôle de manager dans toute sa splendeur, on va dire. Et puis, ben, créer ces synergies pour pas avoir mis ensemble deux expertises qui bossent en silo, hein. C'est vraiment comment on fait en sorte que justement cette stratégie de contenu, elle avance avec tout le monde dans la même direction. Et ça a été autant une évidence qu'un challenge, pour être très honnête. Parce que en tant que manager d'une équipe avec deux expertises, il y a forcément une expertise que je maîtrise parce que de base je suis content designer. Donc, je suis plutôt senior dans cette expertise-là. Donc, faut pas rentrer dans le côté, je vais micromanager les content designers qui sont dans mon équipe parce que je maîtrise, parce que je vois très bien ce qu'ils font, parce que j'aurais pas fait pareil. Donc, faut leur laisser la place, de grandir en tant que content designer, les aider en tant que content designer. Et l'autre aspect, c'est que, ben, en même temps, je suis manager d'une expertise que je maîtrise beaucoup moins. Et ces personnages, je peux pas leur apporter l'expertise, donc qu'est-ce que je leur apporte? Et ça a été aussi quelque chose que j'ai découvert et qu'il faut accepter en tant que manager, c'est que quand tu as une équipe qui est multidisciplinaire, il y a forcément des disciplines que tu vas moins maîtriser. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que j'apporte à ces personnes si je leur apporte pas l'expertise? Je suis assez convaincue qu'en tant que manager, t'as pas besoin d'être expert. Parce que sinon, je pense que c'est là où tu va un petit peu moins bien manager. Voilà, il faut trouver sa place en tant que manager dans une équipe où tu as une expertise que tu maîtrises très bien et que personnellement, moi, j'adore le content design, et une expertise, la localisation, que je découvre beaucoup plus que ce que je pensais, parce que je pensais être assez, pas solide, mais j'avais une bonne connaissance de la localisation parce que chez Doctolib, ben, on le faisait en fait. Donc, du coup, c'est assez proche, et là je commence à me dire, ah ok, en fait il y a une vraie complexité sur les process, c'est très tech en plus, ça me sort de ma zone de confort. Donc voilà, j'essaie de leur apporter autre chose que l'expertise et une vision produit dont ils auraient besoin, peut-être davantage de ressources, construire des ressources avec eux. Donc voilà, c'est un petit peu ça le challenge en tant que manager de cette équipe avec deux expertises différentes.
Ouais, plutôt au final aussi ce rôle de coach aussi, les aider
Ouais.
enfin les questionner, les aider à trouver par eux-mêmes, par elles-mêmes leur solution, une solution, ouais.
Ouais, exactement. Et ça fait partie du rôle de manager, d'aider les personnes à grandir, à peut-être trouver aussi des projets dans lesquels elles excellent. Trouver les points d'amélioration et leur donner les bons projets pour leur permettre de s'améliorer, d'apprendre. Donc ouais, je pense que c'est un rôle de manager où je commence un peu à prendre du recul aussi sur les projets et à me dire, ben, c'est eux qui font et mon rôle, c'est de leur donner vraiment toutes les billes, toutes les ressources, tout ce qu'ils ont besoin, en fait, pour mener à bien leur projet et réussir et être, voilà, successful.
Ouais, là où le risque côté content design, c'est que tu te mettes plus en position de mentor et te dire, ben, j'ai peut-être déjà la solution en tête, mais il faut pas que je leur donne pour que ces personnes trouvent par elles-mêmes la solution, quoi.
Ouais, c'est ça. J'essaye plutôt de poser des questions plutôt que d'apporter les solutions clés en main parce que je pense pas que ce soit la bonne manière de me faire, de dire il faut faire ça, etc. J'ai appris de cette manière parce que j'ai été solo, j'ai pas eu de content designer manager. Moi, c'était plutôt des design directors ou des product designer lead. Enfin, c'était des rôles qui maîtrisaient pas mon expertise et du coup, c'est vrai qu'ils me posaient des questions, tournaient le problème dans un autre sens. Pour m'aider à réfléchir, et je trouve que c'est une manière d'apprendre qui est plutôt intéressante, qui me paraît assez saine. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de leur apprendre, de dire réfléchissons différemment si on se sent coincé. Et du coup, ce mécanisme-là, j'essaie de l'utiliser côté localisation, puisque j'ai pas tout le temps la solution clé en main non plus, encore moins. Donc moi, ça m'aide aussi à réfléchir et à me poser les bonnes questions avec eux sur comment on fait les choses. Et comment on améliore les choses.
Et depuis que cette structuration a eu lieu, cette restructuration a eu lieu côté équipe content, d'avoir une vraie équipe content, qu'est-ce qui a changé dans la manière de travailler, dans la conception et aussi dans les équipes autour?
Qu'est-ce qui a changé? On en a un petit peu parlé, mais ça donne plus de visibilité à la localisation et aux enjeux de localisation, ça c'est évident. Après, je pense que ça a donné aussi un petit peu plus de de poids, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas d'importance au content dans sa globalité, puisqu'aujourd'hui, on a une équipe avec un certain nombre de personnes, donc on n'est pas la petite équipe à côté de toutes les autres. On a une taille qui est assez équivalente au product marketing, par exemple, ou à la research, au CRM. Donc, c'est une équipe qui a eu l'importance et qui a grandi aussi en même temps que les autres. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le voir et de le constater. Après, ce que ça a changé, c'est que ben, du coup, on avait des process ou deux process qui coexistaient dans des équipes différentes. Le fait d'avoir un peu tout mergé, on les a un peu remis en question aussi. On s'est reposé d'autres questions. Ça a permis de remettre aussi à plat, disant est-ce qu'on fait bien les choses aujourd'hui en termes de process? Est-ce qu'on a les bonnes personnes, le bon nombre de personnes, je veux dire, dans l'équipe? Est-ce qu'on intervient au bon moment dans les projets? Enfin, ça a vraiment permis de remettre tout à plat et peut-être se poser des questions qu'on ne se serait pas posées si on était resté deux entités bien distinctes, parce qu'on n'avait pas forcément intérêt de se poser ces questions communes. Et pareil, ça a permis aussi de remettre en question les outils, la stratégie qu'on a, peut-être d'ouvrir des questionnements sur les opportunités. Enfin, tu vois, il y a tous ces sujets d'IA qui commencent à émerger. On se pose ces questions ensemble, on a des réflexions communes, que ce soit sur le content design ou sur la localisation. Et puis encore une fois, c'est une équipe qui a une responsabilité partagée du contenu. Parce qu'on voilà, comme je disais, c'est de la discovery, la delivery, donc il y a vraiment ce côté, on a une responsabilité partagée, c'est pas uniquement sur les épaules de la localisation du content design, c'est l'équipe content qui gère cette responsabilité du contenu, et du coup on est ensemble pour trouver des solutions, donc il y a moins ce côté isolé de ah bah là c'est tombé dans ton panier, donc c'est toi qui gères ce truc, là c'est plutôt chez nous, donc c'est nous qui fixons ça. Ça, je trouve ça assez agréable en fait. Si je prends un peu de recul, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui sont identifiées comme étant des content, on va dire. Donc, comme on est plus nombreux, on est plus présent aussi dans l'équipe produit, que ce soit avec les PM, avec les PMM, les research, il y a la localisation, le content. Donc, c'est peut-être bizarre à dire, mais on est plus présent en nombre et du coup on est plus présent à plusieurs niveaux. Donc du coup on nous identifie maintenant comme ah ben c'est l'équipe content. Donc du coup on a aussi plus d'impact, je pense, de cette manière-là.
Et puisque tu en as parlé, je vais aussi poser la question. Au final, je le fais à chaque fois dans tous les épisodes maintenant. Cette personne aussi qui intervient toujours en conférence et qui met un petit peu de tension. Du coup, tu as parlé d'IA. Aujourd'hui, vous l'utilisez ou pas? Et si oui, comment?
Aujourd'hui, on a plutôt une approche exploratoire de ces sujets-là. Encore une fois, on remet toujours en question la manière dont on fait les choses. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas intégrer dans une potentielle solution le fait d'intégrer l'IA. Ça paraît évident. Mais encore une fois, on explore des possibilités, que ce soit côté content design ou côté localisation, d'intégrer l'IA. Et puis on suit aussi de manière assez attentive les tendances. Il y a des gens qui testent des trucs, qui font des articles, des vidéos, des podcasts, etc. Donc on reste assez attentif là-dessus. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut explorer l'IA à différents niveaux. Dans notre process et oui, c'est clairement des questions qu'on se pose et qu'on commence à se poser et qu'on se posera pendant un bon moment, je pense, dans notre équipe content, et je pense que tant que tu gères le sujet de contenu, c'est un peu quelque chose que tu es obligé d'intégrer au bout d'un moment. Après, de quelle manière, c'est là où faut pas se précipiter.
Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution au sein de ton équipe pour 2024 et éventuellement années à venir?
Mais, ben, de manière générale, enfin, je vais pas te faire une réponse qui veut rien dire, mais de manière générale, il y a toujours des perspectives d'évolution d'une équipe. Après, comme je te le disais, je m'interroge toujours sur la manière de scaler une équipe et une expertise. Parce que, à mon sens, il n'y a pas qu'une seule manière de faire grandir une équipe et la faire évoluer, en tout cas. Ça passe pas uniquement par le fait de mettre un content designer ou un localization spécialiste dans tous les projets à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de comment, étant une équipe multidisciplinaire, comment on fait évoluer. Ça peut passer par le fait, encore une fois, de s'interroger sur quels sont nos projets de localisation, est-ce qu'on a inclus tous les bons projets. Côté content design, c'est est-ce qu'on a partagé les bonnes ressources à toutes les personnes, est-ce qu'on est déjà suffisamment aligné entre nous pour produire un contenu quali. Donc en fait, l'évolution, elle passe à plein plein de niveaux. Aujourd'hui, on fait un gros travail aussi sur éduquer en interne les personnes. Quel est notre rôle? Quels sont nos différents rôles et niveaux d'implication? Si on n'est pas impliqué dès le début, comment on intervient dans les différents projets? Donc oui, l'évolution aujourd'hui, on se pose la question, mais je me la pose presque tous les jours quelle sera, comment on va évoluer cette équipe dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24? Donc j'ai pas une réponse toute faite, mais c'est clairement quelque chose que c'est une réflexion que j'aime bien avoir en tout cas, et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que tout va très vite dans la tech, même si on est dans une période assez calme et qu'on n'est plus dans l'effervescence qu'on a pu connaître. Ça fait parler un peu comme des vieux de la vieille, mais tu vois le scale avec les recrutements de 100 personnes par mois, c'était plutôt avant 2020. En 2020 en tout cas. Donc aujourd'hui, on est dans une période où effectivement on est peut-être un peu plus précautionneux sur l'évolution des équipes de manière générale, et du coup on se pose des questions différemment, je pense.
Ouais. Et j'ai une question qui me vient en tête parce que toi, du coup, tu exerces ton métier à distance, t'es full remote aujourd'hui?
Oui, c'est ça.
Ouais. Et c'est vrai qu'on voit un peu, enfin, de plus en plus de boîtes qui ont envie de retourner, tu sais, à 2, 3 jours, voire full time par semaine et au bureau. Et surtout, ce besoin d'avoir les managers au bureau. Enfin, je ne sais pas si tu observes cette tendance, mais en tout cas, moi, je l'observe dans pas mal de boîtes. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Est-ce que ça crée une distance ou des difficultés à manager en étant remote pour toi? Ou est-ce que c'est une question qui se pose ou pas du tout?
En fait, chez BlaBlaCar, c'est pas vraiment une question qui se pose, puisque du coup, la culture du remote, elle existe depuis, j'ai l'impression, avant le Covid. En tout cas, moi, je les ai rejoints en 2021, donc j'ai toujours connu des gens en remote, même des personnes avec des postes importants, enfin élevés en termes de hiérarchie, on va dire. Moi, j'ai une équipe, on est tous en remote. Il y a personne à Paris. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est même moi la dernière qui ai pris le virage remote, puisque j'ai déménagé il y a 3 mois de Paris. J'entends aussi le côté des entreprises qui veulent revenir un peu en arrière sur le présentiel, etc. Je pense que ça vient d'une peur de perdre une certaine culture d'entreprise, où j'ai l'impression qu'il faut se voir et être ensemble dans la même pièce pour créer quelque chose, là où je suis pas forcément d'accord. Et c'est pas non plus ma vision du management d'être surprésent, surreprésenté. Je pense qu'il faut se mettre une routine. C'est ce qu'on a créé dans l'équipe, c'est de se voir une fois par semaine tous ensemble. De s'échanger sur des sujets. On se voit assez régulièrement, donc on a quand même effectivement des réunions. Mais je suis pas forcément d'accord avec ce côté. Il faut absolument que les managers. Pourquoi les managers d'ailleurs? Qu'est-ce que ça change le fait qu'on soit au bureau sans forcément notre équipe, mais avec d'autres managers? Enfin, Je comprends pas trop en fait ce retour en arrière, pour être assez honnête. Je vois pas ce que ça. En fait, je pense pas que le remote ait prouvé une certaine faille et prouvé que ça fonctionnait pas au point qu'il faut revenir en arrière. J'ai plutôt l'impression que le remote, ça permet, d'un point de vue de manager, hein, aujourd'hui, je me dis que ça m'embêterait d'être dans une entreprise où on permet pas de recruter partout en France, parce qu'en fait, il y a des très bons profils partout. Et du coup, d'exiger aux gens de vivre à un endroit précis, et Paris en l'occurrence, ça serait pas forcément juste pour tous les bons profils qu'on s'interdit de recruter, qui pourraient vivre à Strasbourg, à Lyon, à Lille, à Marseille, à Bordeaux. Donc c'est vrai que d'un point de vue management, ça me poserait problème que mon entreprise m'impose ça, parce que je suis convaincue qu'il y a des très bons profils partout en France. Et surtout en content design et en localisation, enfin il y a de un, d'après nos expertises, pas besoin de bosser au bureau. Enfin, le remote fonctionne très bien et je pense que ça l'a prouvé depuis 3 ans et demi. Et en plus, y a des bons profils partout. Donc, c'est déjà des profils qui sont rares. Donc, si en plus tu les restreins dans une zone précise, tu mets encore moins de chances de ton côté de trouver la personne qui fit avec ton projet d'équipe. Enfin, commence à devoir aligner beaucoup de planètes, là, je trouve que ça fait un peu beaucoup.
Ouais, je pense qu'il y a ce côté un peu, ouais, comme tu disais, culture d'entreprise, représentation. Après, il y a aussi, on entend pas mal dire que ça stimule la créativité d'être ensemble physiquement. Mais ouais, c'était par curiosité que je posais cette question parce que y a certaines entreprises qui reviennent un peu au bureau, on va dire. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils pour des personnes qui voudraient évoluer dans leur carrière et devenir lead?
Je pense que le premier conseil, c'est d'accepter un rôle de lead ou de management, si et seulement si il y a un vrai besoin, de construire une équipe et de structurer une expertise enfin, de cette manière-là, en ajoutant un manager et en ajoutant un lead, et qu'il faut pas se précipiter à vouloir copier un schéma qui existe dans une autre équipe, en l'occurrence product design par exemple, où du coup c'est plus structuré, il y a des head-of, des leads, etc. Côté content design, on n'y est pas encore et il faut pas se précipiter à vouloir construire une équipe. On peut très bien avoir 3 individuels contributeurs qui fonctionnent très bien de manière indépendante et pas forcément besoin de commencer à construire une hiérarchie. Donc le premier conseil, c'est d'accepter un rôle de lead s'il y a un besoin. Est-ce que l'entreprise a besoin de construire une équipe content? Est-ce que l'entreprise, elle est prête aussi à faire grandir cette équipe? Parce qu'en fait, construire une équipe de 2 pour rester 2 pendant 5 ans, ça fait pas sens. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée aussi des personnes qui sont pas forcément épanouies dans leur rôle de manager. Donc, pour moi, un rôle de lead se construit aussi avec l'entreprise qu'il y a autour, les autres managers qu'il y a au-dessus. Et ça, c'est hyper important et il faut vraiment en avoir conscience et pas hésiter aussi à challenger en fait les rôles qui sont proposés ou qui sont construits au fur et à mesure. Ça, c'était pour le côté conseil ou pour faire attention. Et après, mon autre conseil, c'est de se former au management parce qu'en fait, c'est super important. Il faut avoir conscience aussi tu vois, par exemple, je parlais tout à l'heure de content design, c'est une expertise que je maîtrise, mais faut pas tomber dans le côté quel genre de manager j'aimerais être, parce que quel genre de manager j'aimerais avoir aussi, moi, en tant que personne. Ça, c'est des choses qu'on se pose pas vraiment comme question, et toutes les formations de management t'amènent un peu à avoir ces réflexions que t'as pas forcément de manière hyper spontanée. Et je trouve que c'est important, en vrai, d'investir sur des formations de management. Et puis un autre conseil que je pourrais donner, c'est de parler à d'autres managers pour partager des bonnes pratiques, et peut-être que des choses que tu as expérimentées et que tu n'as pas réussi à résoudre, quelqu'un d'autre l'a vécu aussi. Et rien que de partager un peu des doutes ou des réussites, c'est hyper important. D'autant plus qu'en France, je pense qu'on a tous à apprendre des uns des autres parce qu'il y a des équipes qui évoluent plus vite que d'autres, mais on n'est pas non plus dans une dimension très différente comme on peut voir aux États-Unis. Je pense qu'on fait face aux mêmes problématiques, donc autant se parler et partager les. Enfin, ouais, je suis très dans l'échange humain et c'est un peu ce que je recommande si tu veux passer sur du management parce que gérer des gens, je pense que ça s'improvise pas.
Et c'est sûr que c'est vraiment par l'échange, enfin moi je suis persuadée que c'est vraiment par l'échange où on apprend le plus, hein. J'ai expérimenté moi-même notamment avec ce podcast. Est-ce que tu as des ressources à partager qui t'ont permis d'apprendre justement sur le management en lien avec ce sujet-là?
Je pense que tout ce qui est programme de mentorship, ça reste une très bonne idée. J'ai suivi Hexagone UX, par exemple, en tant que mentor et en tant que mentee. Encore une fois, c'est l'échange humain, mais du coup, de bénéficier d'un accompagnement, d'un espèce de coaching, mentorship, c'est hyper important et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est quelque chose, enfin, c'est une ressource que je conseille en tout cas. Et puis bon après je suis un peu en lien avec ce qu'on vient de se dire mais je suis assez persuadée que les relations humaines en tout cas les rôles de management ça s'apprend pas vraiment dans les livres même s'il y a sûrement de très bons livres sur le management mais il faut pas juste rester sur un livre qu'on a pu lire il faut vraiment en fait un livre c'est assez figé le contenu et en tout cas justement le management, ça évolue tellement vite. Les gens, ils ont des besoins différents d'une personne à l'autre et même d'un semestre à l'autre. Donc, du coup, il faut quand même être assez agile et assez curieux, en tout cas, d'aller découvrir, mais en fait, ouais, comme je disais, les autres problématiques d'autres personnes. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai rencontré d'autres managers d'équipe content et on essaie de se voir une fois par mois. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez, de un, qui est assez sain, qui est assez positif et qui te permet aussi de dire, en fait, ce que je fais, c'est pas à côté de la plaque. Et je me suis posé les bonnes questions au bon moment. Et en plus, ben, justement, comment on fait évoluer notre stratégie de contenu dans la bonne direction. Donc, je trouve que c'est sain, ouais, de parler avec d'autres personnes. Donc, j'ai pas de livre, désolée, à te recommander, mais il y en a des très bons. Mais mon conseil, c'est de pas prendre ça pour seule ressource. Encore une fois, les relations humaines, je pense que ça s'apprend en ayant d'autres relations humaines.
Ouais, bah, complètement, complètement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé et que tu aurais aimé aborder ou tu penses qu'on a fait le tour?
Non, je pense qu'on a fait le tour. Je suis très contente d'avoir pu donner un peu plus de visibilité aussi à ce que fait un localization manager. On parle beaucoup de content design, mais on oublie l'autre aspect du contenu qui est celui-ci. Et juste, en fait, on ne peut pas ne pas en parler, on ne peut pas ne pas considérer cette expertise, surtout en Europe, où le seul moyen pour un produit français ou de n'importe quel pays européen de s'étendre, c'est de s'étendre dans les autres pays. On ne partage pas la langue, donc la localisation, c'est un enjeu hyper crucial pour les entreprises européennes. Et du coup, c'est un enjeu qui n'est pas aussi important aux États-Unis, parce que pour localiser aux États-Unis, tu t'écris en anglais et voilà, tu touches déjà énormément d'utilisateurs. Je reste assez convaincue que c'est un sujet qui est très présent en Europe, en tout cas. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de localization managers qui viennent nous parler de comment ça se passe pour eux dans d'autres entreprises. Donc ouais, très contente de pouvoir parler de cette expertise qui est hyper importante.
Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour ton partage, toujours aussi
Merci à toi.
et puis c'est chouette aussi de voir ton évolution aussi depuis le premier épisode.
Un grand merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. N'hésitez pas non plus à noter le podcast et à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt !